Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Kieran Gessel, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guy Lamège. Mesdames, Messieurs, les signataires invitent la France à reconnaître l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. La France, depuis la présidence de François Mitterrand, tient un langage franc et sincère à ses amis israéliens comme palestiniens. Fidèle à cette position historique et équilibrée, les signataires manifestent par la présente résolution leur attachement à une reprise sans délai des négociations devant aboutir à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Alors voici quelques extraits de la résolution qui sera débattue demain à l'Assemblée nationale avant d'être soumise au vote des députés mardi prochain. Une résolution proposée par les élus socialistes, non contraignante pour le gouvernement, mais à haute valeur symbolique. L'objectif affiché est le suivant, faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse sa politique d'implantation dans les territoires palestiniens, politique qui rend de plus en plus compliquée l'existence à terme de deux États viables. Alors la France n'est pas la seule à s'être engagée dans cette voie, d'autres parlements en Europe viennent d'en faire autant. On peut donc parler de politique cohérente à l'égard de ses proches voisins, mais l'est-elle encore du point de vue de sa propre histoire? La diplomatie française à l'égard des Israéliens et des Palestiniens s'est toujours présentée depuis De Gaulle comme un modèle d'équilibre. Est-ce encore le cas? Conflit israélo-palestinien, la France a-t-elle choisi son camp? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Yves Aubin de la Messusière. Bonsoir.
Bonsoir.
Ambassadeur de France, vous avez été en poste dans de nombreux pays du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez dirigé de 1999 à 2002 la division Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Pour discuter avec vous ce soir, Nicolas Dungan, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur pour l'Atlantic Council, qui est un think tank basé à Washington, conseiller spécial à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous donnez également des cours à Sciences Po. Vous préparez un ouvrage pour, dans un an, deux ans, pourquoi la France compte? Bon, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, mais enfin, en tout cas, vous vous intéressez de près à la politique étrangère française. Notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Nice. Il s'agit de Frédéric Chilot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, chercheuse associée au Centre de recherche français à Jérusalem. Et donc ce soir, vous êtes bien à Nice. On vous doit en 2012 aux éditions André Versailles, la politique française à l'égard d'Israël. Alors c'est à vous que je vais poser la première question, Frédéric Chilot. Mais on va faire un premier tour de table d'ailleurs, en partant de cette résolution qui ne sera pas l'unique motif de notre discussion ce soir. Mais c'est en tout cas ce qui a motivé cette émission. Est-ce que la résolution telle qu'elle se présente demain, Frédéric Chilot, peut être qualifiée d'initiative audacieuse de la part des parlementaires français?
Oui, elle est vraiment audacieuse, mais elle n'est pas originale en sens où il y a des précédents. Il y a des précédents dans l'histoire. On entend de ci, de là dans le débat que ce ne serait pas de la culture politique et parlementaire française que d'appeler à la reconnaissance d'un État. C'est vrai qu'il y en a eu peu dans le passé, mais il y en a eu un exemple qui est intéressant. C'est une résolution
qui remonte à très loin,
qui remonte à 1948. Six jours après la proclamation d'État d'Israël par David Ben-Gourion, et c'est un député socialiste qui a porté donc une résolution pour appeler à la reconnaissance de l'État juif. Ce socialiste, Pierre-Olivier Lapy, donc, a présenté cette résolution qui a été mise en débat alors que l'État d'Israël était à peine né et déjà luttait pour son existence face aux armées arabes. Malheureusement, son discours qui pourtant était flamboyant et appelé à la France, à la fois la France amie des peuples arabes, la France première communauté juive d'Europe, la France fille aînée de l'Église en Palestine, les appeler ces trois Frances à se réunir et à voter.
Alors sur les trois Frances, hein, on va avoir l'occasion d'y revenir, Frédéric Chilot. Je voudrais que tout le monde ait le temps déjà de s'exprimer une première fois avant peut-être de faire certains développements. En tout cas, vous disiez une initiative audacieuse mais pas originale. Est-ce que ça pourrait vous convenir pour définir cette résolution française de 2014, Yves Aubin de la Messusière?
Enfin, ce que je dirais, ceci participe d'un grand mouvement au sein de l'Union européenne, hein, puisque la France, qui a souvent été au premier rang, qui a été précurseur de toutes les initiatives au cours des dernières décennies pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, qui était plutôt, depuis, il faut le reconnaître, depuis deux ans, plutôt timide, plutôt en retrait. On sentait une certaine distanciation. Donc il y a eu l'initiative de différents parlements, c'est en Grande-Bretagne, c'est aussi en Espagne, la reconnaissance aussi par la Suède en tant qu'État.
Qui est toute récente, hein, ça date du 30 octobre.
Qui est encore toute récente, et on s'était habitué au fait que c'était plutôt la France qui prenait les initiatives dans sa relation avec l'OLP, aussi d'avoir accueilli le président Yasser Arafat, et aussi à l'origine des grandes résolutions européennes, hein, la résolution aussi de Berlin en 2009, sous présidence allemande, mais l'initiative française.
Donc vous diriez, même à Venise. Vous diriez, voilà. Boba de la Messe-Fusière, que oui. Si cette initiative manque d'originalité, c'est aussi parce que la France, loin d'être pionnière en la matière, fait plutôt du suivisme par rapport à d'autres pays européens.
Non, on ne peut pas le dire, là. C'est du suivisme. Ce n'est pas dans sa tradition, là, bien entendu. Non, là, il y avait une certaine distanciation que j'avais observée dès les premières prestations du président de la République, devant la conférence des ambassadeurs, quand il a évoqué le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, sans évoquer l'État, alors même que les Israéliens eux-mêmes et même Netanyahou l'évoquent parfois. Alors c'était le langage de Venise 1980, qui était aussi d'initiative française. Alors ce qui est bien, c'est que le Parlement joue un rôle en quelque sorte d'aiguillon et est en phase aussi avec l'opinion. C'est comme tous les parlements européens, en phase aussi avec les opinions. Il y a un grand mouvement qui se dessine, et ça c'est très important.
Nicolas Dungan, donc vous qui vous intéressez de près à la politique étrangère française, est-ce qu'on peut dire, alors sachant qu'il faut bien rappeler que c'est une résolution parlementaire, que pour l'instant ça n'engage pas le gouvernement, on verra bien ce qu'en fera la diplomatie française d'un point de vue officiel, mais en tout cas, est-ce qu'on arrive à une sorte de clarification de la position de la France par rapport à cette question à travers cette résolution?
Je crois que dans votre question, vous avez déjà annoncé les deux éléments de la réponse, parce que d'une part, cette initiative, cette résolution est tout à fait conforme à la politique étrangère de la France, qui est une politique étrangère qui à la fois est inspirée par les intérêts de la France, mais aussi par certaines valeurs que l'on considère comme étant universelles. Et par conséquent, la France doit chercher la paix, et il est assez clair que si l'on veut chercher la paix et la démocratie dans cette région, il faut que les Palestiniens aient un statut qui leur permette une autodétermination réelle et une protection comme en tant qu'État. Néanmoins, ce qui est surprenant, et là je relève aussi le point qu'Yves Aubin de la Massudière disait, c'est que pourquoi une initiative du Parlement? Pourquoi est-ce que cette initiative ne vient pas justement du gouvernement, voire du palais de l'Élysée? Et ce sont plutôt les hésitations de la présidence de la République et éventuellement une politique héritée de son prédécesseur qui font que, en fait, ce président-ci a été un peu plus réticent pour se mettre en avant sur cette question.
Et bon, on va peut-être justement poser la question à Yves Aubin de la Messe-Fusière et à Frédéric Chillot. Pourquoi est-ce que c'est une initiative du Parlement? Est-ce que vous considérez, par exemple, Frédéric Chillot, que cette initiative-là, elle peut embarrasser François Hollande et Laurent Fabius, ou bien est-ce que finalement elle ne les sert pas? C'est-à-dire que s'ils ont derrière eux des parlementaires qui plaident pour la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien ils auront plus de facilité à amener cette question de manière plus officielle. Frédéric Chillot.
Je ne pense pas que ça puisse embarrasser le président de la République, parce que cette résolution n'a pas pour vocation de lui demander demain de se prononcer sur la reconnaissance de la Palestine. En fait, il s'agit d'un mouvement européen de divers parlements qui sera porté ensuite par l'ONU. Et on le voit déjà aujourd'hui avec la réaction de Federica Mogherini d'appeler les Israéliens et les Palestiniens à retourner à la table des négociations.
Ouais, Federica Mogherini, c'est la chef de la diplomatie européenne.
Oui, et en ce sens, cette résolution parlementaire est un coup de main pour aider, pour initier quelque chose via les parlements européens, mais pour initier quelque chose en Europe. Et c'est peut-être une opportunité pour la France et pour le ministre des Affaires étrangères Fabius, qui, on le sait, prépare quelque chose et s'attelle à ce projet en ce moment via l'ONU ou via l'Europe, d'initier quelque chose sur le dossier palestinien.
Yves Abbas, messieurs, hier, Laurent Fabius l'a d'ailleurs fait savoir qu'il était en accord avec cette initiative, tout en disant ça ne veut pas dire qu'on ira beaucoup plus loin.
Mais enfin, oui, ça relève effectivement de l'exécutif, hein, de reconnaître ou ne pas reconnaître. Mais on sentait déjà des frémissements d'un réengagement de la France sur le dossier israélo-palestinien depuis quelque temps. C'est lorsque, au milieu de la guerre de Gaza, lorsque Laurent Fabius, au-delà de la condamnation effectivement de la réaction disproportionnée d'Israël, a dit il faut rechercher une nouvelle méthode, de nouvelles enceintes et aller plutôt vers une paix imposée. Alors, comme le disait là tout à l'heure notre interlocutrice, il semble qu'il y ait une initiative qui s'annonce, dont je n'ai pas encore les éléments, et qui se passerait dans le cadre du Conseil de sécurité. Hein, il y a des éléments qui sont déjà sortis, qui sont du domaine public, en engageant les membres permanents du Conseil de sécurité et avec les pays arabes de la région qui sont concernés. Et ça concerne bien entendu l'Égypte, hein, qui retrouve son rôle, et c'est essentiel pour l'équilibre régional. Le président Sissi est actuellement à Paris. C'est la Jordanie parce qu'elle assure la protection de l'esplanade des mosquées, des lieux saints musulmans. Et c'est aussi l'Arabie saoudite parce qu'on sent qu'il y aura peut-être une relance de l'initiative saoudienne qui était tout à fait importante et qui avait été rejetée par les États-Unis, par Israël, qui concernait donc évacuation des territoires dans les frontières et retour aux frontières 1967. Et en échange, on évoquait, ce qui est quand même très fort, la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Voilà, donc là, il y a, je pense, une initiative très importante qui s'annonçait avant même, disons, la perspective d'une résolution à l'Assemblée nationale.
Nicolas Dungan, s'il y a cette initiative, ou cet ensemble d'initiatives, hein, puisqu'on a bien compris que la France n'est pas isolée dans ce mouvement, est-ce que ça n'est pas aussi en partie parce qu'il y a une place à prendre pour faire de telles initiatives? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas parce que les États-Unis ont un peu déserté cette question du conflit israélo-palestinien?
En partie, mais c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont un peu déserté cette question, c'est parce que, d'une part, les États-Unis sont extrêmement occupés par d'autres priorités, y compris Daesh, et deuxièmement, parce que les groupes de pression qui existent aux États-Unis sont eux-mêmes, contrairement à ce qu'on peut croire de l'extérieur, divisés. L'EPAC qui représente le camp Netanyahou n'est pas monolithique. Il y a beaucoup de juifs américains qui considèrent que la politique de Netanyahou n'est ni humanitaire, ni dans les intérêts d'Israël, dans la mesure où ce grignotage par les implantations fait que traiter le peuple palestinien sur un territoire qui, après tout, est aussi son foyer national et devient de plus en plus difficile dans la mesure où on les prive de ce qu'il faut pour vivre correctement. Donc, oui, il y a une place à prendre. Je pense d'ailleurs, ça ouvre sur un thème beaucoup plus grand que nous n'allons pas traiter ce soir, mais il faut que l'Europe s'habitue à ce que les États-Unis ne seront pas là sur toutes les questions dans un avenir proche et y compris dans un avenir lointain, parce que les États-Unis doivent faire face à un certain nombre de crises internes qui sont peu visibles du dehors et l'opinion publique américaine veut que les problèmes soient résolus chez eux, à la maison, pour ainsi dire, avant de s'aventurer dans d'autres domaines. Donc, le fait que les États-Unis se retirent un tout petit peu, c'est une place pour l'Europe, mais c'est aussi une responsabilité pour l'Europe.
Et on voit comment, justement, l'Europe et la France essaient de prendre cette place aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre la discussion pour voir, justement, comment cette initiative s'inscrit peut-être dans la longueur et dans la politique étrangère française par rapport à ce dossier, je voudrais qu'on fasse un crochet par Jérusalem, où nous attend Sébastien Logeni. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de Radio France à Jérusalem. On avait envie de savoir, évidemment, comment était perçue cette initiative des parlementaires français, côté israélien et côté palestinien. Il semblerait que la démarche française horripile particulièrement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, alors c'est vrai qu'on sent ici un très grand agacement effectivement chez Netanyahou, qui a eu cette phrase il y a quelques jours lors d'une interview. Il a parlé de grave erreur et puis ensuite il a dit est-ce que c'est tout ce qu'ils ont à faire en ce moment en France alors qu'on décapite des gens à travers le Proche-Orient. Alors c'est effectivement vous dire si la démarche des députés insupporte hein, vraiment les autorités et pas seulement d'ailleurs le gouvernement, ça irrite également dans à travers tout le spectre, hein, je pourrais dire politique, c'est-à-dire même le parti travailliste ici est très circonspect hein, sur l'intérêt et le sens de ce geste. Le parti travailliste qui a finalement un peu les mêmes arguments d'ailleurs là-dessus que le gouvernement, à savoir qu'une démarche unilatérale n'a en fait aucune chance de faire avancer la paix. Ça va crisper les Israéliens, ça va renforcer les Palestiniens dans leur volonté de ne pas retourner à la table des négociations. Et puis on entend ce même argument aussi chez un certain nombre d'intellectuels de gauche, on pourrait dire hein, en gros, ici les députés socialistes donnent l'impression de se faire plaisir, de se donner bonne conscience, mais en fait on est sûr que ça ne changera rien. Alors bref, il y a un agacement réel. Après, on ne peut pas parler pour l'instant, en tout cas, d'inquiétude. Voilà, il faut quand même relativiser cet agacement. Pour être honnête, les autorités israéliennes n'ont pas peur de ce vote des parlementaires français. Ils savent que c'est pas contraignant, c'est juste une recommandation. Ce dont ils ont vraiment peur, si je puis dire, c'est si vraiment l'Europe, dans son ensemble, officialisait cette reconnaissance. Et surtout, ce dont ils ont peur, c'est du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque, je vous le rappelle, les Palestiniens cherchent depuis maintenant quelques semaines à présenter une résolution à l'ONU pour mettre fin à l'occupation d'ici 2016. Et cette démarche-là, effectivement, c'est cette démarche-là qui compte, c'est cette démarche-là qui pourrait, si elle réussissait, faire bouger les lignes côté israélien.
Sébastien Logeni, est-ce que, à contrario, du côté palestinien, c'est une initiative qui était attendue et qui aujourd'hui est saluée par l'ensemble des partis, à savoir le Fatah et le Hamas?
Alors évidemment, de façon très générale, les Palestiniens sont très satisfaits de la démarche française. La France, c'est pas n'importe quel pays ici. Alors évidemment, il y a le côté France des droits de l'homme, la France des Lumières, la France de la Révolution. Donc ce pays, historiquement, symboliquement, a beaucoup de poids. La France est aussi un membre du Conseil de sécurité, au même titre évidemment que la Grande-Bretagne. Donc ça a plus de poids que l'Espagne. Et puis là, c'est pas l'opposition, comme en Grande-Bretagne, qui va voter, c'est la majorité présidentielle. C'est effectivement peut-être, au bout du compte, aussi l'exécutif qui semble, en tout cas, beaucoup plus sensible aux arguments des députés et à cet argument de la reconnaissance de la Palestine que l'exécutif anglais, par exemple. Donc on compte beaucoup sur la France pour faire jouer un effet domino pour que d'autres pays en cascade finissent par reconnaître officiellement l'État de Palestine.
Merci beaucoup Sébastien Logeni d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle donc que vous êtes le correspondant de Radio France à Jérusalem et donc on vous entend régulièrement dans les journaux sur France Culture. Merci à vous. Une réaction Yves Aubin de la Messusière. Sébastien Logeni disait cette initiative française, c'est pas n'importe quelle initiative, c'est-à-dire c'est une voix qui porte encore aujourd'hui dans la région. Vous êtes d'accord avec ça? C'est
oui,
encore une voix qui porte?
Tout à fait. Il faut se souvenir qu'il y a exactement un an, la Palestine a été admise à l'Assemblée générale des Nations Unies comme État non membre observateur. Il y avait une hésitation du côté français.
Oui, parce que ça, il y a eu une longue tergiversation.
Voilà.
On s'est décidé qu'au dernier moment.
On s'est décidé, donc ça a été une décision du président de la République. Et on avait bien conscience que si la France était abstenue, elle entraînait vers le bas une majorité de pays européens. Finalement, elle a voté pour et 14 pays européens ont suivi. Ce qui veut dire que, effectivement, si la France devait reconnaître, mais c'est sans doute pas pour demain puisqu'il y a cette initiative dans le cadre des Nations Unies, si elle devait reconnaître l'État de Palestine, il y aurait certainement un effet d'entraînement. Alors pour revenir à ce que disait votre correspondant, on voit qu'il y a une très forte nervosité de la part des Israéliens. Ils ont critiqué l'attitude de la Suède, ils ont critiqué aussi la résolution du Parlement espagnol, du Parlement britannique, certes. Mais on les sent beaucoup plus nerveux parce qu'il s'agit de la France. Et parce que je crois que les Israéliens maintenant, et le gouvernement Netanyahou, commencent enfin à prendre conscience qu'ils sont isolés. Il y a une forme d'isolement qui se développe en Europe, et avec des mesures qui sont prises au niveau européen, il y a maintenant un mot qui était tabou pour l'instant, et puis ça circule, je n'ai pas tous les éléments, on parle maintenant de sanctions concernant la colonisation, hein, qui est le cancer du processus de paix, avec toutes ses métastases, c'est le problème fondamental. Donc là, il y a un grand isolement de la part d'Israël, au-delà du problème donc de la reconnaissance de l'État palestinien.
Frédéric Chilo, vous qui êtes régulièrement en Israël, est-ce que vous ressentez aussi cette nervosité du côté des dirigeants israéliens à l'égard de la France? Et est-ce que cette nervosité pourrait s'expliquer par le fait que peut-être que les Israéliens se sentent un peu trahis, disons, par la France, en qui ils voyaient à travers et Nicolas Sarkozy d'abord, et ensuite peut-être encore davantage François Hollande, un fidèle allié qui ne ferait pas, qui ne prendrait pas ce genre d'initiative?
Oui, les Israéliens sont très nerveux en ce moment, parce qu'ils sentent bien que, au-delà de la résolution à l'Assemblée nationale et de l'initiative de parlementaires socialistes en France, il y a un mouvement qui se crée en Europe. Et que la France le portera peut-être d'ailleurs en Europe. Et effectivement, comme vous le soulignez, la France, ce n'est pas que n'importe quel acteur. Et certainement pas au Proche-Orient. La France, vous demandiez également, est-ce qu'elle a choisi son camp? Non, elle n'a pas choisi son camp, et c'est un choix politique. C'est un choix qui est assumé, alors quelquefois, bien sûr, pour ne pas choisir, elle se réfugie dans l'abstention. On en parlait à l'instant. Longtemps, certaines résolutions sont passées in extremis parce que la France a décidé de sortir de l'abstention. Mais souvent, la France décide de ne pas choisir pour satisfaire chacun de ses intérêts. Et ils sont multiples. Sébastien Legenay en parlait. Il y a la France des Lumières, la France de l'émancipation des Juifs, la France, première communauté juive d'Europe. Qui soutient Israël, qui demande à ce qu'Israël ait des frontières reconnues et sûres dans un processus de paix. Il y a également la France qui est puissance méditerranéenne. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a une fenêtre de tir, on pourrait dire, puisque l'influence américaine est en berne au Moyen-Orient, et que la France elle-même n'a plus beaucoup de dossiers en tant que puissance méditerranéenne. Elle a perdu ses alliés traditionnels en Afrique du Nord, tous plus ou moins balayés par le printemps arabe. C'est la même chose au Levant, où il ne reste plus finalement que l'allié traditionnel libanais. Et c'est peut-être sur ce dossier palestinien qu'elle va essayer de reprendre la main dans la région. Mais il y a aussi une troisième France, c'est la France fille aînée de l'Église en Terre Sainte, qui explique par exemple qu'elle ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël.
Qui souhaiterait que Jérusalem reste une ville internationale, multi-religieuse.
Alors, depuis 1947, depuis le plan de partage de la Palestine, c'est la position de la France. Aujourd'hui, la France soutient Jérusalem capitale de deux États, mais sans doute toujours avec l'internationalisation des lieux saints.
Alors, vous avez eu la gentillesse de nous ramener au titre de l'émission de ce soir, Frédéric Chilo. La France a-t-elle choisi son camp? Nicolas Dengane, est-ce que vous voyez, vous, dans la politique étrangère française actuelle à l'égard du Proche-Orient et en particulier à l'égard des Israéliens et des Palestiniens, une France qui tient une politique, une position équilibrée? Et est-ce que le fait, ce sera la deuxième partie de ma question, si la résolution devait se transformer en reconnaissance officielle, est-ce qu'on serait encore dans cet équilibre?
C'est une position équilibrée dans la mesure où, effectivement, la France essaye de défendre le droit d'Israël de disposer de lui-même, le droit d'Israël d'avoir des frontières sûres, mais aussi de l'autre peuple qui partage cette terre. Je confirme, du point de vue d'un analyste étranger, l'importance de la voix de la France, et ceci à trois propos. Au Moyen-Orient, comme cela a été souligné, en Europe où il n'y a aucun autre pays européen qui ait la même portée par ses capacités diplomatiques. Et rappelons que la France a le deuxième réseau diplomatique du monde derrière les États-Unis et une expertise qui est reconnue, un professionnalisme très reconnu partout dans le monde. Mais aussi, cette diplomatie française, si elle venait à devenir un peu plus visible et un peu plus nationale, si vous voulez, et ne pas seulement refléter une position d'alignement avec d'autres pays européens et éventuellement avec quelques des points de vue aux États-Unis, cette politique, si elle est française, elle sert aussi à contrer l'image d'une France antisémite, d'une France du Front National, d'une France que le French bashing à l'étranger adore dépeindre comme un pays en interne, comme intolérant, alors que, comme l'a rappelé Frédéric Chilo, c'est la la France a la communauté juive la plus grande d'Europe, mais elle a aussi la communauté musulmane la plus grande d'Europe. Et donc, je pense que la France est extrêmement bien positionnée, et je reviens sur ce que disait Yves Aubin dans la Massusière, pour mettre en œuvre une paix imposée. Parce que cette paix imposée, les États-Unis ne peuvent pas la proposer, la Grande-Bretagne non plus, l'Allemagne non plus, aucun pays du Moyen-Orient, mais la France a la légitimité pour la proposer.
Mais alors, vous êtes d'accord tous les trois pour dire que la France a un poids, a un rôle à jouer important sur ce dossier. Est-ce que pour vous, Yves Aubin de la Messuzière, cette volonté d'apparaître comme une puissance équilibrée entre les Israéliens et les Palestiniens, est-ce que ça, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui? Ou bien est-ce que ça ne fait pas un peu sa faiblesse? C'est-à-dire, quand on est puissant, quand on est entendu, écouté et entendu, est-ce qu'il ne faut pas justement en profiter pour faire des choix peut-être un petit peu plus marqués, un peu plus radicaux que ce qu'a fait la France jusqu'à présent?
Non, je n'aime pas, disons, l'expression « il faut avoir une position équilibrée ». C'est-à-dire, ce qu'il faut, de la part de la France, des pays européens, et aussi les autres acteurs comme les États-Unis, c'est de rappeler les principes, c'est de rappeler les valeurs, et c'est surtout de rappeler le droit international. On en arrive à oublier qu'il y a tout un corpus de résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, condamnant, disons, la poursuite de la colonisation, ne reconnaissant pas Jérusalem comme capitale unifiée et de l'État d'Israël. C'est ça qui est très important. Alors, puisqu'on parle d'équilibre, ce qui est très important, c'est que si l'État palestinien est reconnu par davantage de pays européens, et peut-être plus tard par les États-Unis, ceci, disons, permet de donner un nouvel équilibre, c'est-à-dire dans la relation entre l'État d'Israël et l'État palestinien.
Mais est-ce qu'aujourd'hui,
c'est-à-dire
pour
que
vous...
l'État palestinien sera mieux en mesure, si vous voulez, de négocier à égalité avec l'État d'Israël et avec la protection aussi de la communauté internationale, ça mettra en valeur davantage la question fondamentale de la colonisation.
Donc ça veut dire que pour vous, Yves Aubin de la Messuzière, la relation aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, c'est une relation asymétrique. Voilà. Et donc la France notamment ne doit pas rechercher absolument une position équilibrée, elle doit chercher une position qui permette de rééquilibrer cette relation,
oui,
c'est
oui.
ça
Oui, en fait, rééquilibrer, c'est-à-dire, elle rappelle ses principes, deux principes, la
sécurité... Et de respecter les principes de la diplomatie française et le droit international.
Oui. C'est-à-dire, la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Ça, il faut le répéter. Elle le répète et elle rappelle le droit des Palestiniens. D'abord, ça a été à l'autodétermination et d'avoir un État qui soit viable et démocratique. On voit bien que ce n'est pas le cas là actuellement. Et alors, ce qui est très important pour répondre, disons, à Netanyahou, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités israéliennes qui même encouragent la France et le Parlement. Vous vous souvenez, ce qu'a fait Elie Barnavi avec des centaines de personnalités israéliennes, c'est-à-dire adressant, c'est sans doute une première, au président de l'Assemblée nationale, une lettre pour le dire, aller vers la reconnaissance de l'État palestinien. Très important. Donc il y a des voix qui s'élèvent dans ce sens-là. Mais ce qui est très important, reconnaître l'État palestinien, contrairement à ce qui est dit de la part de Netanyahou, je ne pense pas que ce soit tous les Israéliens, disons que c'est renforcer le Hamas. Mais pas du tout, c'est renforcer l'autorité palestinienne.
Exactement.
Nicolas Zengad ?
Exactement, et je pense que l'isolement dont vous parlez, c'est surtout l'isolement des créateurs, et notamment Netanyahou lui-même, d'une politique israélienne qui tend à... tenter le ministre des Affaires étrangères de la France à utiliser des phrases comme une paix imposée. Parce qu'il faut arrêter cela. Alors, ce qui a changé aussi, je pense, et là, c'est peut-être une erreur d'ailleurs d'appréciation, on considérait autrefois que, par exemple, après le 11 septembre, etc., que le conflit israélo-palestinien était au cœur du problème entre le monde arabe et le monde extérieur. Et je pense qu'on a bien vu qu'il y a beaucoup d'autres problèmes du monde musulman et du monde arabe vis-à-vis de l'Occident. Et ces terroristes ne sont pas tous inspirés par le sort du peuple palestinien. Néanmoins, ça ne nous enlève pas la responsabilité de régler ce problème-là. Et d'ailleurs, si on le réglait, à mon avis, on aurait un effet de domino très positif dans le monde arabe.
Frédéric Chilo, je ne vous ai pas interrogé sur la question de l'équilibre de la position française à l'égard du conflit israélo-palestinien, mais je vais peut-être vous poser la question un petit peu différemment. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la politique qui est menée par la diplomatie étrangère française est une politique équilibrée ou bien est-ce qu'elle penche d'un côté ? Et si oui, lequel ?
Équilibré, on le verra aussi. Il est important de voir comment les Israéliens le perçoivent. Les Israéliens ont vu, par exemple, François Hollande, au début de son mandat, comme un ami d'Israël. Et également, au début de la guerre à Gaza. Sa première réaction semblait tout à fait naturelle et spontanée en faveur d'Israël avant qu'il ne soit rattrapé par son ministre des Affaires étrangères. Donc les Israéliens l'ont perçu comme quelque chose d'extrêmement positif et qui rompait peut-être avec le passé. Aujourd'hui, avec ce projet de résolution, effectivement, ils se sentent d'une certaine façon trahis en oubliant peut-être que la France a toujours souhaité cet équilibre. Moi, je pense que pour être médiateur, le rôle de médiateur impose de parler à toutes les parties. Et dans ce cas, d'être respecté par tous, la position d'équilibre est nécessaire. C'est aussi dans la culture de la négociation israélienne d'obtenir des garanties. Des sanctions contre Israël pour l'imposer à revenir à la table des négociations seront peut-être efficaces à terme, mais en tout cas, pas maintenant. Et les Israéliens sont très nerveux. Et ce n'est pas ainsi que dans le passé, en tout cas, ils sont venus à la table des négociations. Par exemple, après 73, ils avaient toutes les raisons de le faire, après l'échec de la guerre du Kippour. Eh bien, il y avait des sanctions, il y avait une position, une pression américaine très forte. Et néanmoins, ce sont aussi des garanties apportées à Israël pour sa sécurité, avec des frontières reconnues qui lui ont permis de venir négocier et qui ont permis à Menachem Begin, un homme de droite, pour la première fois, de laisser des territoires occupés, en l'occurrence le Sinaï, de rendre le Sinaï à l'Égypte.
Alors sans doute les Israéliens avaient de bonnes raisons de croire, des raisons objectives de croire qu'avec l'arrivée de François Hollande, les relations entre la France et Israël seraient encore plus proches qu'elles ne l'étaient peut-être par le passé. Tenez, je voudrais vous faire écouter juste ce petit extrait. Nous sommes en novembre 2013. François Hollande vient de s'exprimer à la Knesset et puis juste après, il y a une soirée en privé. On a trouvé cette petite vidéo sur le site de Mediapart, qui nous a beaucoup aidé pour préparer d'ailleurs cette émission, parce qu'on fait des articles extrêmement intéressants sur le sujet. Voilà, écoutez François Hollande qui fait une déclaration d'amour à Israël.
Si on m'avait dit que je viendrais en Israël et qu'en plus de faire de la diplomatie, de la politique, j'aurais été obligé de chanter, je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants.
Voilà, un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, ça c'est François Hollande en novembre 2013. En juillet 2014, le 9, alors on est vraiment juste au début de l'opération Bordure Protectrice, il y a un communiqué de l'Élysée, donc au tout début de la guerre à Gaza, qui dit ceci, le président de la République a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il a rappelé que la France condamne fermement ces agressions. Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Rien n'est dit dans ce communiqué sur ce que peuvent vivre les Palestiniens. Ça viendra quelques jours après, mais ça n'est pas venu au début. Yves Aubin de la Messuzière, quand on parle de politique étrangère française, est-ce qu'elle se confond avec ce que serait la doctrine de François Hollande en particulier, ou enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est un chef de l'État à propos duquel on ait autant de mal finalement à situer sur cette question-là?
Vous savez, on qualifie comme on l'a fait d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy, pour dire c'est l'ami d'Israël, il s'est autoproclamé ami d'Israël, comme l'a fait François Hollande. Et face aux réalités, même déjà Nicolas Sarkozy a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Il a été le premier, je ne veux pas, disons, dans cette antenne faire l'éloge de Nicolas Sarkozy, mais il a été le premier chef d'État européen, et donc français, à évoquer devant la Knesset, sans que ça fasse scandale, Jérusalem, capitale de deux États. Et ceci a entraîné, et c'est là où on voit le rôle précurseur de la France, une résolution européenne sous présidence suédoise, fin 2008, reconnaissant Jérusalem, capitale de deux États. J'ai l'impression que pour François Hollande, je ne connais pas ses sentiments profonds et particuliers vis-à-vis d'Israël, mais il a donné effectivement l'impression, notamment à travers cette réaction, qui effectivement a suscité beaucoup de critiques, et ça on peut le comprendre, parce que c'était une forme d'encouragement à Israël finalement. Et alors pour revenir à l'équilibre, eh bien Mahmoud Abbas l'a appelé, et il y a eu un communiqué cherchant justement un équilibre artificiel pour justement s'inquiéter, se préoccuper effectivement de la réaction disproportionnée. Mais alors maintenant, on sent que le problème, j'avais l'impression, du président de la République, c'est une forme de distanciation et de manque d'intérêt pour ce conflit parce qu'on estimait qu'il n'était plus central et qu'il pouvait être résolu comme un conflit de basse intensité. Bon, il y a un problème avec Gaza, Israël le règle, et puis on va attendre, bon, pendant quelques années, la situation va se calmer, etc. C'est ça. Et maintenant, il y a un réengagement parce qu'il y a une prise de conscience en France, et du président de la République, c'est comme en Europe, que ce conflit redevient finalement central. Il est au cœur des agendas actuellement européens, les Nations Unies, dans les discussions avec tous les partenaires. Je suis sûr que le général Sissi est là présent, que c'est au cœur aussi des entretiens entre François Hollande et le général Sissi. Alors voilà, donc il y a un réengagement de la France, c'est ça qui est essentiel. Et là, il y a une marque, il n'y a pas de doute, de Laurent Fabius.
Frédéric Chillot, c'est François Hollande qui change ou c'est, ça, c'est la politique étrangère de la France qui change sur le sujet? Parce que François Hollande, finalement, peut-être contraint et forcé, c'est peut-être un petit peu fort de le dire comme ça, mais en tout cas a fini par rejoindre l'approche qu'avaient ses prédécesseurs.
Je crois que tout homme politique qui se rend en Israël, le président Hollande et d'autres avant lui, font une géopolitique un petit peu particulière. Alors, ils se rendent à la Knesset, mais aussi ensuite à Sainte-Anne, domaine national français, et puis à la Moukata. Et pour chacun, ils délivrent un discours de fraternité et d'amitié. Et c'est bien normal de le faire. Et quiconque sera en Israël sera frappé d'ailleurs par la chaleur des gens et délivrera peut-être, comme Hollande l'a fait, des discours d'amitié envers Netanyahou. Aujourd'hui, la situation dans la région est terrible. Finalement, le processus de paix israélo-palestinien est le plus simple à régler quand on voit ce qui se passe avec Daesh et d'autres. Et donc, c'est une opportunité. Et d'autre part, si l'on regarde le théâtre régional, c'est peut-être le plus facile à régler. Mais si on regarde ce qui se passe en Israël et dans les territoires, nous avons atteint là-bas un seuil assez intolérable. Et bientôt, il ne sera plus question de la solution de deux terres pour deux peuples.
C'est bien une dernière fois, Frédéric Chillot, quand on aura quelqu'un qui nous dit que c'est un des problèmes les plus faciles à régler, effectivement, en comparaison avec les autres problèmes de la région.
Mais je suis parfaitement d'accord.
Un dernier mot, Nicolas Dungan, en quelques secondes.
Non seulement Nicolas Sarkozy a changé sur ce sujet, mais Nicolas Sarkozy a soufflé à Barack Obama concernant Netanyahou, je ne lui fais plus confiance. Donc, on attendait de François Hollande qu'il prenne une position plus forte. C'était une erreur à la conférence des ambassadeurs de ne pas mentionner l'État palestinien. Et je pense qu'il faut revenir sur ce qu'on veut dire par amitié.
C'était la première conférence des ambassadeurs. Hein,
oui, c'est ça. L'amitié, ce n'est pas dire à un ami « oui, vous faites ce que vous voulez, je vous soutiens ». C'est dire des choses déplaisantes et difficiles pour que l'ami s'en sortent meilleurs. Et c'est ce qu'il faut ici.
Eh ben, je n'ai rien de déplaisant à vous dire, moi, ce soir. Merci, Nicolas Zungan. Merci à vous, Yves Aubin de la Messuzière, ainsi qu'à Frédéric Chillot. Merci également, nos confrères de France Bleu à Nice qui vous accueillaient pour l'émission de ce soir. Et puis, Sébastien Logénie, je rappelle, notre correspondant à Jérusalem. Voilà, cette émission terminée. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours. Vous pouvez la télécharger pendant un an. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous podcastent. Vous êtes plus de 250 000 par mois, ce qui fait du grain à moudre, une des émissions de la chaîne les plus téléchargées. Voilà, de temps en temps, on peut être content comme ça. On se retrouve lundi prochain pour l'émission suivante. Comment repenser les politiques de prévention du sida ? Nous serons le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida.